tout de suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quand la Nouvelle-Zélande et la France sonnent la mobilisation contre la violence en ligne, 2 mois, jour pour jour après la diffusion en direct sur Facebook de l'attaque contre des mosquées en Nouvelle-Zélande, Emmanuel Macron et Jacinda Ardern lancent aujourd'hui à Paris l'appel de Christchurch. Objectif, lutter avec les géants d'Internet contre la propagande terroriste en ligne.
Dans votre journal également, au Soudan, le pouvoir militaire et le mouvement de contestation poursuivent leur dialogue politique.
Oui, les deux camps qui espèrent aujourd'hui enregistrer une nouvelle avancée sur la composition du Conseil souverain destiné à diriger le pays durant la période transitoire fixée à 3 ans.
2 jours après le mystérieux sabotage de 4 navires près des Émirats Arabes Unis, des attaques de drones revendiquées par les rebelles yéménites voisins ont provoqué la fermeture hier d'un oléoduc en Arabie Saoudite.
De quoi faire monter aussitôt d'un cran les tensions dans le Golfe, certains voyant dans la multiplication de ces attaques la main cachée de la République islamique d'Iran. La politique en France et son lot de polémiques à l'approche des élections européennes quand la France insoumise a vu hier l'un de ses élus régionaux quittait le mouvement après avoir appelé à voter pour le Rassemblement National. Plusieurs compagnons de route de François Mitterrand dénoncent eux dans une lettre les propos de Raphaël Glucksmann, tête de liste aux élections, accusant l'ancien président de responsabilité dans le génocide au Rwanda. Enfin, 1 mois après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Christophe Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Non au technosolutionnisme BA, c'est le cri d'alerte de notre invité, l'ingénieur Philippe Biwix. Il appelle à penser aujourd'hui urgemment un plan C après celui des technologies qui pourraient réparer le monde. Il proposera des mesures concrètes pour tenter de sortir de cette situation.
Merci et à tout à l'heure. L'une des choses que je ne m'étais jamais imaginé devoir faire et que j'espérais ne jamais devoir faire, explique-t-elle, était de parler au nom d'une nation en deuil. Et pourtant, c'est très précisément ce qu'elle a fait dès le lendemain du pire attentat de l'histoire de son pays, après qu'un suprémaciste blanc autoproclamé eut ouvert le feu dans 2 mosquées, tuant 51 fidèles à Christchurch. La première ministre néo-zélandaise s'était présentée voilée pour étreindre les familles des victimes. Ce jour-là, Jacinda Ardern était devenue tout à la fois le visage de la douleur de son pays, mais aussi de sa détermination. Maxime Tellier, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors 2 mois, jour pour jour, après cet attentat, la très populaire première ministre néo-zélandaise est donc à Paris aujourd'hui à l'occasion du 2e sommet Tech for Good, avec une mission: empêcher à l'avenir la propagation en ligne de contenu à caractère terroriste, ainsi que l'avait fait ce terroriste australien en diffusant la vidéo de ses actes en direct sur Facebook.
Oui, ce grand sommet est une réponse directe à cet attentat qui avait tant marqué les esprits. Derrière la première ministre néo-zélandaise Emmanuel Macron, des dizaines de chefs d'État et de patrons du numérique sont réunis pour lancer cet appel de Christchurch. L'objectif est simple, il faut aller plus vite que les terroristes qui publient des contenus haineux. Mais l'application est difficile en Nouvelle-Zélande. La vidéo de l'attaque diffusée en direct avait été immédiatement copiée, dupliquée. Facebook affirme l'avoir enlevée 1,5 million de fois. YouTube explique qu'elle était remise en ligne chaque seconde dans les premières heures par de simples internautes qui devenaient ainsi des sortes de complices. Alors, que faire? Les États veulent mettre les géants du numérique devant leurs responsabilités et coordonner les efforts entre public et privé. La France, elle, se pose en grande championne de la régulation.
Alors, ce sommet à Paris réunira des dirigeants politiques, mais aussi quelques 180 responsables du monde numérique, avec toutefois un grand absent, Maxime, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, lequel a lui été reçu vendredi dernier à l'Elysée.
Oui, mais c'est une absence qu'il ne faut pas voir comme un geste de défiance. L'Elysée précise que le patron de Facebook et d'Instagram n'était pas disponible aujourd'hui. Son entreprise a d'ailleurs fait des gestes. Dans une tribune très remarquée fin mars dans plusieurs numéros de la presse, Mark Zuckerberg a appelé à plus de régulation. Et ce matin, son entreprise annonçait aussi une restriction de l'utilisation de Facebook Live, l'outil donc utilisé par ce terroriste néo-zélandais. Laurent Soli, le patron de Facebook France, l'a annoncé sur France Info.
Nous allons interdire à des utilisateurs qui auraient enfreint nos règles les plus sensibles et les plus strictes de sécurité l'utilisation du live. Mmh. Je vous donne un exemple. Si vous postez un contenu, si vous postez un lien lié à une personne ou un groupe terroriste ou qui propage la haine sur les réseaux. Si cette mesure avait eu lieu, il n'aurait pas pu utiliser le live.
Et Facebook annonce aussi des investissements pour améliorer les algorithmes qui reconnaissent et suppriment les contenus haineux. En France, une proposition de loi est en préparation pour l'été afin d'obliger les plateformes à retirer les contenus haineux en 24 heures sous peine d'amende colossale. La France, enfin, qui veut arriver à une charte internationale d'ici au G7 à Biarritz, qui est organisée fin août. Aujourd'hui, il faut le savoir, sur Internet, un contenu sur 7 est un contenu haineux.
Merci Maxime Tellier. 3 semaines après les attentats djihadistes perpétrés contre des églises au Sri Lanka, attentats d'ailleurs dont l'une des hypothèses retenues est qu'ils auraient pu être menés en représailles au massacre commis à Christchurch, les autorités ont rétabli pour la 2e nuit consécutive un couvre-feu sur l'ensemble de son territoire. Par ailleurs, le blocage de l'accès aux réseaux sociaux imposé à Facebook, WhatsApp, YouTube et Instagram a été étendu hier à Twitter. Il vise à limiter la diffusion de messages incitant à la violence à la suite des émeutes anti-musulmanes qui ont éclaté dimanche dernier en plein Ramadan. Preuve toujours que le divisionnisme religieux est décidément un terreau fertile à la propagation de la haine. Au Burkina Faso, 4 catholiques ont été tués hier par un groupe d'hommes armés dans le nord du pays. C'est la 3e attaque meurtrière contre des lieux de culte des fidèles chrétiens dans ce pays en l'espace de 15 jours seulement. Rappelons que ces tueries interviennent par ailleurs quelques mois après les assassinats de plusieurs prédicateurs et imams, ou quand en dressant ainsi les communautés ethniques et confessions religieuses les unes contre les autres, les terroristes et leur idéologie obscurantiste tentent de porter atteinte à la cohésion nationale. Au Soudan, le risque de voir les violences de ces derniers jours qui ont fait 6 morts et de nombreux blessés fragilisés, les pourparlers a semble-t-il été écarté, du moins provisoirement. Hier soir, le conseil militaire au pouvoir depuis la chute d'Omar al-Béchir et les représentants de l'opposition ont en effet annoncé s'être entendus sur une période de transition de 3 ans à l'issue de laquelle le pouvoir sera transféré aux civils. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Alors, il semble qu'un accord aurait également été trouvé sur la répartition des forces au sein de la future assemblée législative. En revanche, Claude, les deux camps n'ont a priori pas encore trouvé de terrain d'entente sur la composition du Conseil souverain.
Il se donne encore 24 heures pour en discuter. Alors, ce Conseil souverain, Thomas, c'est la haute autorité de cette période de transition qui va donc précéder le transfert total du pouvoir aux civils. Et c'est bien là que le bât blesse, parce que qui aura la main sur ce Conseil, les civils ou bien les militaires? Chacun, évidemment, on veut avoir le contrôle, mais les deux camps savent aussi pertinemment qu'ils ne peuvent rien l'un sans l'autre. Mais les violences de lundi soir ont compliqué la question. L'ALC, l'Alliance pour la Liberté et le Changement, vous savez, qui était le fer de lance du soulèvement, accuse l'armée d'être à l'origine de ces morts. L'armée, elle, accuse des éléments infiltrés d'être derrière ces affrontements destinés à faire capoter le processus de négociation. Reste que le rôle joué par l'armée est de toute façon assez trouble. Les Soudanais n'oublient pas qu'en Égypte, la puissance voisine. L'armée s'était d'abord posée en gardienne du peuple pendant le soulèvement de 2011, avant de reprendre totalement la main avec l'ancien maréchal Abdel Fattah al-Sissi, dont la politique est aujourd'hui très éloignée des idéaux révolutionnaires. Et dans l'armée soudanaise, en fait, plusieurs forces concurrentielles semblent se faire face. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes, surtout sur les objectifs réels des FSR, les forces de soutien rapide, très craintes de la population, responsables d'atrocités au Darfour et dirigées par le général Emeti, qui a une réputation extrêmement sulfureuse. Ses forces, depuis le début de la révolte, jouent la carte de la rue pour gagner en popularité, mais certains les soupçonnent d'être derrière les affrontements meurtriers de lundi.
Merci Claude Guibal. Faut-il encore parler de simple guerre psychologique entre Washington et Téhéran lorsque chaque jour de nouvelles informations viennent nourrir un peu plus les inquiétudes autour d'une escalade militaire au Moyen-Orient? Après l'annonce de l'envoi dans le Golfe d'un porte-avions, d'un navire et de missiles hier, Donald Trump, tout en démentant l'article du New York Times faisant état de plans à l'étude pour envoyer 120 000 militaires américains dans la région, s'est empressé de préciser dans une rhétorique qui à bien des égards d'ailleurs rappelle celle d'un certain George Bush que si tel devait être le cas, il déciderait d'envoyer bien davantage de troupes encore. Et puis, comment ne pas voir derrière cette ligne dure croissante exercée par les États-Unis une explication possible des tensions actuelles dans le Golfe Persique? Hier, 2 jours après des actes de sabotage contre 4 navires de commerce au large des Émirats, les rebelles aussi du Yémen ont revendiqué des attaques de drones contre un important oléoduc en Arabie Saoudite. Or, même si les Houthis ont toujours refusé d'être considérés comme des pions avancés par Téhéran, les États-Unis et leurs alliés, eux, veulent y voir la main cachée de l'Iran. Les précisions de notre correspondant dans la région, Aurélien Colli.
Sur la chaîne de télévision yéménite de la rébellion, le chef des Houthis s'est vanté d'une opération majeure impliquant 7 drones qui sont allés frapper des stations de pompage proches de la capitale saoudienne Riyad. Mais ce scénario laisse plusieurs experts sceptiques. Si les Houthis disposaient de tels moyens, pourquoi ne pas les avoir utilisés avant, s'interroge un spécialiste, alors qu'ils n'ont pas hésité à tirer une centaine de missiles vers l'Arabie saoudite depuis 2015. La technologie utilisée les dépasse largement, affirme un autre, en soulignant qu'une telle attaque nécessite des capacités techniques et de renseignements relevant d'un État. Dans le viseur, l'Iran, qui soutient la rébellion Houthi, combattue par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L'Iran, déjà soupçonné par une enquête préliminaire de l'armée américaine, d'avoir commandité les actes de sabotage qui ont visé dimanche en mer d'Arabie des pétroliers et cargos saoudiens, émiriens et norvégiens. Des zones d'ombre subsistent sur ces actes que le régime iranien a lui qualifié de préoccupants et regrettables, tout en accusant les États-Unis d'avoir monté l'opération pour encourager un conflit. Si la responsabilité de Téhéran est avérée, c'est un avertissement à Washington et à ses alliés sunnites du Golfe, conclut un chercheur. En l'occurrence, une guerre avec l'Iran ne se limiterait pas à son territoire, mais aurait des conséquences sur toute la région et même sur l'économie mondiale via ce qu'il a fait tourner le pétrole.
Et j'ajoute que ce matin, le département d'État américain a ordonné le départ d'Irak de son personnel diplomatique non essentiel après des informations des services de renseignement américains selon lesquelles des milices pro-iraniennes auraient déployé des lance-roquettes aux abords des bases américaines. Même si Washington et Moscou ne s'entendent sur presque rien, la visite hier du secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Russie aura été l'occasion pour les deux puissances de réaffirmer leur souhait de cultiver de meilleures relations. Le président russe s'est d'ailleurs dit ouvert à une nouvelle rencontre avec son homologue américain si Moscou reçoit une proposition officielle en ce sens. Quand politique rime une nouvelle fois avec polémique à l'approche des élections européennes, plusieurs têtes de liste dites de petits partis, au premier rang desquels Benoît Hamon pour Génération, dénoncent leur relégation, je cite, scandaleuse en deuxième partie de soirée sur France 2 lors du débat télévisé prévu le 22 mai prochain. La chaîne a en effet décidé de diffuser un double débat qui doit réunir dans un premier temps 6 candidats ou chefs de parti du Rassemblement National, La République En Marche, Les Républicains, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et La France Insoumise, puis dans un deuxième temps seulement les candidats des partis en dessous de 5% d'intention de vote, parmi lesquels Génération, Debout la France ou le Parti Communiste. Yann Brossa, tête de liste pour le PCF, a annoncé saisir le CSA. Ils sont 23 anciens ministres socialistes à avoir eux décidé d'interpeller le Parti Socialiste pour se plaindre des propos de Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique pour les Européennes. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Dans cette lettre datée du 9 mai adressée au premier secrétaire Olivier Faure et révélée ce matin par le Canard Enchaîné, Hubert Védrine, Bernard Cazeneuve, mais aussi Michel Charras, Elisabeth Guigou, bien encore Edith Cresson, pour ne citer que, s'émeuvent de 2 déclarations de Raphaël Glucksmann, coupable, selon eux, d'avoir dénoncé la responsabilité de François Mitterrand dans le génocide rwandais en 1994.
Oui, et cette lettre, le PS voulait la gérer en interne. Le Canard Enchaîné et ses sources en ont décidé autrement. En en-tête, 23 signatures, vous en avez cité certaines. Tous ces anciens ministres refusent d'entendre ces propos, visiblement répétés plusieurs fois par Raphaël Glucksmann, ici sur Radio J.
Franchement, c'est le plus grand scandale de l'histoire de la Ve République. La France a armé, soutenu financièrement, soutenu politiquement des génocidaires.
Mais François Mitterrand alors, part de responsabilité dans ce génocide ou pas ?
Bien sûr, il était président de la République. Mmh.
François Mitterrand, complice du génocide rwandais, ça ne passe pas du tout auprès des Mitterrandiens. Il réclame le retrait de ses accusations ou le désaveu des propos du candidat par Olivier Faure. Le premier secrétaire du PS recevra les signataires de cette lettre la semaine prochaine pour en discuter. Mais franchement, ce n'est pas vraiment le moment pour le député socialiste Guillaume Garot.
Qu'il y ait une discussion là-dessus, c'est parfaitement normal, mais il faudra que cette discussion soit éclairée par des historiens et qu'on regarde froidement, lucidement, sereinement les choses. C'est bienvenu même qu'il y ait ce débat-là, mais je pense qu'on a autre chose à faire en ce moment à 10 jours des élections européennes du 26 mai que de nourrir des polémiques. Regardons devant et devant nous maintenant, c'est le 26 mai.
Mais devant nous maintenant, c'est aussi demain pour les socialistes et Place Publique. Raphaël Glucksmann tient meeting à Lyon et normalement Bernard Cazeneuve, signataire de cette lettre, doit être à ses côtés. C'est en tout cas ce qui est prévu pour l'instant.
Merci Rosalie Lafarge. Quand les querelles politiques nourrissent là encore le débat, hier soir, Andrea Cotarac, élu régional en Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé quitter sa formation, la France Insoumise, après avoir appelé à voter pour la liste du Rassemblement National aux prochaines élections européennes. Une défection qui tombe évidemment au plus mal pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, on comprend bien comment ce ralliement sert aujourd'hui les intérêts du parti de Marine Le Pen. Et pas seulement, Stéphane Robert.
Le ralliement d'Andrea Cotarac et son appel à voter pour le Rassemblement National aux élections européennes ont d'abord provoqué la stupeur, puis la colère hier dans les rangs de la France Insoumise. Le jeune homme, âgé de 30 ans, était l'invité de BFM TV hier soir et aux environs de 19h45, il a déclaré ceci.
Je n'adhère pas au Rassemblement National, ça me paraît plutôt normal puisque ce n'est pas ma famille d'origine à la base, mais je crois que le contexte politique actuel nécessite un barrage à la politique d'Emmanuel Macron et le mieux placé, celui qui parle de relocalisation, de souverainisme, de combat social. Aujourd'hui, la mieux à même de faire barrage à Emmanuel Macron, c'est la liste de M. Bardella.
Andrea Cotarac s'est d'abord engagé au sein du parti de gauche, puis s'est présenté en 2015 sous les couleurs de la France Insoumise aux élections régionales en Rhône-Alpes-Auvergne et il a été élu. Et en 2017, il était également candidat LFI aux élections législatives. Jean-Luc Mélenchon avait alors déclaré dans une interview à un média local « Andrea Cotarac fera le boulot ». Deux ans plus tard, le chef de file des Insoumis tombe des nues, parle de traîtrise, de coups montés et de boules puantes de fin de campagne. Ce ralliement de dernière minute s'avère effectivement être un coup dur pour les Insoumis, puisqu'à travers cet appel, Andrea Cotarac laisse entendre qu'il y aurait un vote utile face à Emmanuel Macron, en faveur donc de l'opposant le mieux placé. Ça sert évidemment les intérêts du Rassemblement National, mais aussi ceux d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, qui essaient de faire de ces élections européennes une réédition du second tour de la présidentielle de 2017. Ce ralliement pose également la question du rapprochement des extrêmes. Y aurait-il un pont entre l'extrême droite et l'extrême gauche? L'expérience des années passées tend à montrer que ce n'est pas le cas, que ces revirements sont en général ponctuels et isolés.
Enfin, toujours s'agissant de politique, j'ajoute que dans un entretien au journal Le Monde aujourd'hui, à la question « Pourquoi ne pas avoir reconnu tout de suite que vous aviez été candidate sur une liste étudiante d'extrême droite ?» Nathalie Loiseau, tête de liste pour la majorité présidentielle pour les Européennes, explique à nouveau qu'elle ne s'en souvenait pas. On l'accuse d'être le cerveau du casse du siècle, un braquage à plus de 37 millions d'euros, c'était en 2013. Marc Bertoldi comparaît aujourd'hui au tribunal correctionnel de Bruxelles. Johanna Hochstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles, surnommé Grand Marco. Marc Bertoldi est soupçonné donc d'avoir organisé le 18 février 2013 le braquage d'un avion suisse à l'aéroport de Bruxelles, avion qui contenait 172 sacs de diamants et de pierres précieuses.
Marc Bertoldi, qui arrive donc devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, menottes au poignet. Il n'a pas de déclaration initiale à faire, mais il accepte de répondre aux questions de la présidente. Quand avez-vous été approché dans cette affaire? Réponse du français. On m'a contacté début février pour vendre des diamants. Je devais juste me tenir prêt le 19 février, au lendemain donc du braquage à l'aéroport de Bruxelles. Où étiez-vous le 18? Chez ma mère, à Metz. Je suis arrivé à Bruxelles le 19, dans la matinée. Mon contact m'a remis un sac qui contenait des diamants pour une valeur de 7 millions d'euros. Je devais les écouler, je devais lui donner 30% de la valeur des ventes et garder le reste. Un butin qui a été retrouvé en Suisse dans la cave d'un ami de Marc Bertoldi. Le français n'est qu'un receleur, explique-t-il. Il nie avoir participé au casse du siècle. Parole au procureur du roi qui revient sur les circonstances du braquage. Des faits minutieusement préparés, explique-t-il. Impossible, selon le procureur, que Marc Bertoldi n'était été approché qu'une quinzaine de jours avant l'attaque. Il revient en longueur sur les 2 ans d'enquête, sur l'analyse des 12 numéros de téléphone utilisés par Marc Bertoldi, des numéros français, belges, suisses et marocains. À l'époque, le français réside à Casablanca. Des téléphones qui ont été utilisés, selon le procureur, pour préparer le braquage à l'aéroport de Bruxelles. Une analyse de la téléphonie permet d'identifier un appel, celui du 17 février, la veille du braquage. Donc, Marc Bertoldi aurait prévenu sa compagne qu'il ne serait pas joignable pendant 2 jours et qu'il allait participer à un gros coup. Le procureur qui a requis 8 ans de prison ce matin pour le français assis sur le banc des accusés. Parole à la défense le 7 juin prochain.
Merci Johanna Hochstein en direct de Bruxelles. C'était il y a un mois, le monde entier assistait presque incrédule au gigantesque incendie qui en quelques heures allait engloutir tout à la fois La charpente unique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de même que sa flèche emblématique. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui en direct du parvis de la cathédrale, Christophe Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame qui dépend du diocèse de Paris. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Une première question, monsieur Rousselot. On a beaucoup parlé de l'incroyable élan de générosité qui a suivi cette catastrophe. On est allé jusqu'à évoquer le chiffre colossal d'1 milliard d'euros de promesses de dons. Cet élan, s'est-il vérifié concrètement? Pouvez-vous nous dire combien vous avez reçu?
Nous avons encaissé 13,5 millions d'euros précisément et nous avons 200 millions d'euros de promesses issus de plusieurs familles, notamment de la famille de Monsieur Bernard Arnault et du groupe LVMH pour 200 millions et 100 millions également de Monsieur François Pinault et de Monsieur François-Henri Pinault. Nous avons également d'autres promesses qui ne sont pas encore suffisamment avancées pour que je puisse en faire état, mais toutes ces promesses doivent être recueillies dans des conventions qui sont prévues par la loi, qui est en fin de discussion, enfin qui va l'être au Sénat très prochainement. Et l'objectif est pour nous de concrétiser tout ça. Le milliard n'existe pas, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut bien mémoriser. Personne à Paris ou ailleurs ne peut prendre une feuille de papier et montrer que ce milliard est consolidé. Il y a des promesses importantes, tout ceci représente un argent important, mais surtout le point d'interrogation qui subsiste est que personne non plus ne connaît le montant total des travaux nécessaires.
Et justement, Christophe Rousselot, sur les dons que vous avez déjà reçus ou sur les promesses de dons de la part de particuliers ou de mécènes, de grands mécènes d'entreprises, est-ce que ces dons ont été fléchés vers certains types de travaux pour Notre-Dame ?
Ils sont ces dons pour l'essentiel, pour la conservation et la restauration de la cathédrale. C'est l'objectif numéro un, permettre qu'à nouveau on puisse célébrer la messe, que les touristes puissent viennent visiter. Donc il y a pour des années de travaux. Et par ailleurs, il y a ce que nous appelons le programme cathédrale qui correspond à toutes les activités de la cathédrale, l'accueil, la présentation du trésor qui est un lieu de visite apprécié, la couronne d'épines qui est vénérée, qui est actuellement au Louvre en sécurité. Tout ceci pour les années qui viennent ne peut pas être complètement stoppé. Nous devons trouver d'autres lieux à proximité pour accueillir peut-être pas 70 000 personnes comme c'était le cas quand il fait beau avant l'incendie, mais plusieurs dizaines de milliers, et tout ceci va générer des travaux, donc des coûts pas négligeables du tout, que nous ne pouvons pas prévoir non plus. La priorité, c'est l'édifice, bien entendu.
Est-ce que la Fondation Notre-Dame, dont vous êtes, je le rappelle, secrétaire général, souhaite une reconstruction à l'identique de la cathédrale? Ce sont des termes qui ont divisé les députés vendredi dernier lors de l'examen du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale.
La Fondation Notre-Dame, en tant que telle, n'a pas à se prononcer sur le choix architectural. Chacun peut avoir un avis dans la vie et c'est très bien comme ça, mais la Fondation en tant que telle, son métier, c'est de collecter des fonds et financer des projets. Donc nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire sur les choix architecturaux. Il faut se rappeler que le bâtiment appartient à l'État, je crois que tout le monde l'a bien repéré, et c'est le ministère de la Culture qui organise les choses en ce qui concerne ce bâtiment. Le diocèse de Paris sera représenté à travers l'organisation qui va être mise en place très prochainement et pourra donner son avis, bien entendu, sur les choix qui seront faits. Mais c'est l'État qui décide de la ligne architecturale du bâtiment dans son évolution ou dans sa reconstitution à l'identique. Nous n'avons pas à prendre parti là-dessus.
Et est-ce que vous prenez parti sur un autre point controversé du projet de loi qui est le caractère exceptionnel donc de ce texte législatif qui permet au gouvernement de légiférer et par ordonnance avec la possibilité de déroger à des règles habituelles en termes de protection du patrimoine, d'urbanisme, de commandes publiques?
Il y a une loi de souscription nationale qui a été voulue, qui est donc en discussion, et nous nous inscrirons forcément dans ce qui s'impose à nous. Maintenant, dans le cadre des conventions, je pense que c'est un point vraiment important à repérer, avec des mécènes qui ne donnent pas forcément des centaines de milliers d'euros, mais à partir de 50 000 euros, nous allons établir des conventions, et le respect de la volonté des donateurs est très important. Prenons juste un exemple très vite. Un donateur qui voudrait apporter 50 000 euros et qui veut les consacrer à la restauration de certains vitraux, eh bien, nous devrons tenir compte de sa volonté.
Et toute dernière question, vous le disiez, Monseigneur Michel Aupetit souhaite célébrer au plus vite une messe au sein de Notre-Dame. Dans quelles conditions de sécurité cette messe pourrait-elle se tenir ?
Alors pour lui-même, ce sera sans doute un casque de chantier et pas sa mitre d'évêque sur la tête. Il l'a dit, donc je me permets de le redire. Et ce serait forcément une messe à effectif très réduit qui pourra être retransmise par KTO en clair et sur le net le jour où ce sera possible.
Christophe Rousselot, merci. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fondation Notre-Dame.
Et merci également à vous Catherine Dutu ainsi qu'à Cyprien de Limerville pour les moyens techniques. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Encore largement ensoleillé à l'exception du sud-est. Quant aux températures, elles afficheront entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.